Le son des bulles sur RCN.
On n'a pas le truc là. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous nous retrouvez ce jour pour écouter le son des bulles, l'émission consacrée 100% à la bande dessinée sur RCN 90.7, est-il besoin de le rappeler ?
Aujourd'hui, Françoise et moi tenterons de maîtriser la pendule infernale qui régit le temps de parole de nos chroniqueurs. Alors, en parlant de nos chroniqueurs, Charles ne nous gratifiera pas d'une de ses chroniques d'un autre siècle, car il est retenu à d'autres tâches importantes.
Francine, de même, s'est débinée comme une brave et on n'y remercie pas d'avoir choisi autre chose que notre présence.
Débinée, alors.
Ah oui, carrément, moi je débine. Oui.
Alors, on retrouve quand même David, toujours prêt à trouver un comics ayant attrait au thème du jour. Ouh ! S'en approchant, vaguement, voilà. Bonjour David.
Bonjour.
Ouais, mais il y arrive toujours, il est trop fort. Et Olivier, fidèle au poste et qui tente ce jour une innovation, tu nous expliqueras ça Olivier ?
Oh ben oui, on peut tenter, après arriver, je sais pas.
Hein. Bon, si tu
mais tenter, on y arrive.
Et en guest star, on a Ingrid qui est venue nous faire un petit coucou, bonjour, là, exceptionnel.
Bonjour Ingrid.
Bonjour. N'oublions pas Anne-Marie, donc, qui rédige, qui sert à tout, qui choisit les musiques. voilà.
Et Françoise,
notre grand Jean-Luc.
Notre grand Jean-Luc, évidemment, qui va rectifier tous nos petits défauts. Grâce à lui, on aura une émission à peu près bien. Quoi.
Et Françoise.
Avec qui a mis son t-shirt. Voilà. Programme électoral.
Qu'est-ce que c'est que cette voix ?
Ah bah, moi, c'est une voix venue d'outre-tombe. Alors, je suis à l'agonie. Mais pas contagieuse.
Une soirée, peut-être ?
Non, même pas. Les pollens. J'ai préféré une soirée. Donc voilà. Alors, vas-y. Bah alors aujourd'hui, on a décidé de coller à l'actualité, d'où mon t-shirt programme électoral Peace and Love. Enfin, on a décidé ça il y a 6 mois, donc c'était le futur. Il y a 6 mois, c'était le futur, parce qu'aujourd'hui, c'est le présent. Enfin, voilà. Bref, on s'avait dit que comme c'est les élections européennes, on va en parler. Mais maintenant, quand l'heure est arrivée de faire une chronique, bon, bah, faut faire une chronique, quoi. C'est des fois moins évident.
C'est simple. Hein.
Ouais, là, bah, merci, Françoise, pour ton idée de thématique.
C'est toujours moi.
On va faire comme à l'ONU. Veto.
Bon, bref, nos chroniqueurs arrivent toujours à retomber sur leurs pattes comme les chats. Ils trouvent toujours à trouver quelque chose autour du thème ou un peu plus loin. Enfin, bref, vous allez pouvoir découvrir ça. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment scotché au thème. Hein. Ça a été un peu dur. Bref. Alors, Olivier.
Ah. Tu vas ouvrir le feu.
Tu vas ouvrir le feu, Olivier, avec ton truc.
Le bal plus que le feu.
Oui.
Alors, on va plutôt ouvrir le bal, on va plutôt se mettre à danser qu'autre chose. Et d'ailleurs, pour danser, ben, voilà, il nous faudra de la musique. Et donc, moi, j'ai décidé de vous faire voyager un petit peu dans l'Europe. L'Union européenne compte... Combien de membres ?
27.
Ah oui, d'accord, vous avez révisé. Bon, bah, c'est bien.
C'est-à-dire qu'en ce moment, on en entend un petit peu, quoi.
Oui, bah, avant de faire la chronique, moi, c'était un peu flou pour moi. Donc, je ne vais pas vous demander de les citer tous.
Non, là, on aura plus de mal, je pense.
Et si ? Non, voilà. Mais voilà, je pensais, du coup, vous faire un petit point sur la place de la bande dessinée dans chacun des pays de l'Europe. Bon, avec 27 pays, j'ai manqué un peu de temps pour préparer.
Oui,
on va faire un petit voyage dans quelques-uns de ces pays pour vous présenter des auteurs connus ou inconnus. Donc, on va commencer par... Voilà, c'est l'hymne national
de
l'Allemagne. Ah bah. Bravo. Vous ne regardez jamais de foot, vous. Hein.
Non.
Non, bah voilà, c'est ça.
D'accord. Je sais que c'est la Mannschaft.
C'est la Mannschaft.
Okay, voilà.
Eh ouais, parce que si au football, on a l'habitude de dire qu'au final, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, bah, en BD, c'est pas les premiers.
Ah bah non, ça c'est, je m'attendais pas à eux. Hein.
Mais si,
il y en a.
Quoique, en premier, rappelez-vous, Heinrich Christian Wilhelm Busch.
Mais oui, il était allemand, lui.
Mais oui,
j'aurais mis suisse, moi.
Allemand, né en 1932. C'est Topfer qui est suisse.
Oui, ah bah voilà.
Mais Wilhelm Busch, lui, c'est un Allemand et c'est le père de Max und Moritz.
Oh, ça, Charles nous en avait parlé.
Mais bien sûr. C'est deux chenapans insupportables qui s'amusent à terroriser leur entourage et les notables de leur village. Et comme tu le disais, Anne-Marie, Charles, on a fait une rubrique il y a quelques émissions de cela. Il faut chercher dans les replays pour les retrouver. Alors moi, du coup, j'ai cherché un peu dans la jeune génération, on ne va pas rester sur le siècle d'avant, et je me suis arrêté sur un auteur qui s'appelle Thomas von Kumant, qui est dit Tommy, c'est plus facile, né en 72 en Allemagne. Alors il a suivi une école de maîtrise allemande pour la mode à Munich, et il est membre depuis 99 d'un atelier d'illustrateurs munichois qui s'appelle l'Artillerie. De 2005 à 2011, il a travaillé en tant que dessinateur sur la série qui s'appelle « La chronique des immortels » aux éditions Paquet, avec au scénario Benjamin von Eckersberg. Une histoire adaptée...
Tu fais 14 000 points.
Arrêtez, je l'ai bien dit, quoi.
C'est très bien, Olivier.
Il faut que je le dise deux fois en plus. Alors, une histoire adaptée d'un best-seller du célèbre auteur allemand de littérature fantastique, Wolfgang Holbein, et c'est une histoire qui se passe au temps de l'Inquisition. Mais... Tommy, donc Thomas von Kumant, est plutôt connu pour sa dernière série jeunesse à succès, un très gros succès. Alors, je ne sais pas si vous êtes les littérature jeunesse, mais la série s'appelle Gung-Ho. Ça vous dit quelque chose ? Gung-Ho, c'est une histoire hyper, hyper intéressante. Donc, c'est toujours au scénario Benjamin von Eckersberg. Et là, donc, dans Gung-Ho, il s'agit d'une histoire un peu futuriste dans un monde dystopique en Europe. Hein, et l'Europe est devenue une terre de danger. Et dans cette terre-là, l'humanité s'est regroupée en petits groupes pour se défendre contre une énigmatique plaie blanche. Et donc la société se reconstruit sur les bases de règles importantes pour créer de la sécurité. Mais qui de mieux qu'un ado est destiné à enfreindre les règles ? Une bande d'ados. Voilà. Oui. Voilà. Honnêtement, moi, pour l'avoir lu, parce que j'aime bien lire un peu la bande dessinée jeunesse, je peux vous assurer que c'est un album très, très tonique et dynamique et vraiment, vraiment intéressant. Alors, la série s'est terminée en 2021 et compte 5 tomes aux éditions Paquet. Et je pense que Thomas von Kumant, Thomas von Kumant, on entendra encore parler de lui. Mais allez voir la série Gung-Ho, c'est très intéressant. C'est vraiment
t'as
bien fait.
T'as pas pu la porter avec toi, là, finalement.
Apporter le livre ?
Oui.
Non, parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup d'auteurs, mais j'ai pas tous les livres avec moi.
D'accord.
Mais... Ça faisait un peu lourd.
Ouais, ça faisait un peu lourd. Voilà, ah, un super. Petit deuxième voyage.
Ah bah oui, vas-y.
Ou alors, vous voulez pour tout à l'heure ?
Tout à l'heure. Allez, on va faire temps en temps des petites intermèdes
ouais,
comme
on
ça.
Des petits sauts.
Alors maintenant, on va passer à David. David qui va nous parler d'un certain docteur.
Doom.
Doom.
Alors,
pourquoi tu es malade ?
Un affreux.
Doom en allemand, ça veut dire fou.
Alors là, pour l'instant, c'est plutôt l'Amérique, Doom, ténèbres, enfin, toi, docteur terrifiant, fatal, etc. Donc là, je vais effectivement parler d'un personnage donc, de comics. Hein, vous savez que c'est un peu ma marotte.
Non.
Les comics américains, et c'est dans les comics américains, souvent, hein, on a tendance à utiliser ou des villes imaginaires, ou des pays imaginaires également. Donc chez Marvel, par exemple, on peut citer la Transia hein, dans les films, la Lafteria, par exemple, dont je vais parler avec le Dr Doom, le Wakanda, j'en avais parlé avec, rappelez-vous, T'Challa et le Black Panther, la Sokovia, etc. Mais aussi dans le franco-belge. On a le pays maudit, par exemple, pour les Schtroumpfs, avec Johan et Pierre-Louis. Là, bon, j'empiète un peu sur Charles, hein, mais la Braslavie, en fait, donc la patrouille des castors, ou alors Zotreland dans Le Roi des Autres avec Achille Talon en 77. Donc, vous voyez, donc, cette idée de toujours créer des territoires dystopiques, ou du moins imaginaires, est fréquent. Dans les villes américaines, par exemple, c'est souvent le cas dans DC Comics. Vous avez Blue Devons, qui est le repère de Robin, l'allié de Batman dans le New Jersey. Vous avez bien sûr Gotham City, qui se trouve également dans le New Jersey. Vous avez Metropolis, la ville de Superman, qui se trouve dans le Delaware.
Okay.
Vous avez Central City, Coast City, etc. Chacune de ces villes est protégée par un de ses héros principaux, que ce soit Green Arrow, etc. Donc on voit bien que cette idée de créer comme ça des petits endroits hors de l'espace, enfin hors du temps en tout cas, mais hors de l'espace connu géographiquement, permet aussi à ces auteurs de parler de sujets un peu plus délicats. Par exemple, vous avez dans certains pays, on va pas citer l'Irak, par exemple, on va dire le Kurak, hein, et envoyer les super-héros dans ces pays-là pour régler des problèmes. Mais on ne cite pas le pays en question parce que ça pourrait peut-être créer des polémiques. En tout cas, de nombreuses BD donc placent des héros et des personnages dans des pays imaginaires, ça je viens de vous le dire. Et on peut prendre comme exemple, donc, notamment, notre ami, le Docteur Doom. Oh, voilà, dont je vais parler aujourd'hui. Alors, ce personnage-là, on va... c'est pas un adepte de l'Europe, lui. Hein. C'est plutôt un gaillard qui est plutôt au mode tyran, roi, qui oppresse son peuple, etc. Donc, on est vraiment sur tout autre chose. Mais son pays, la Latveria, la Latveria, s'inscrit dans un pays d'Europe centrale, pays de l'Est, un petit peu. Vous voyez, un peu cette place. Donc,
D'accord. Avec un verre un peu.
C'est le 10 avril 1862, donc dans le cinquième volet des Fantastic Four, que le Docteur Doom fait son apparition. Alors, j'ai pas le comics d'origine en VO, mais on va dire, j'ai quelques comics qui vous montrent là l'apparition régulière dans les albums des Fantastic Four. Donc, les fameux Fantastiques, c'est l'ennemi récurrent. C'est l'ennemi que Jack Kirby et Stan Lee ont créé spécifiquement pour. Et on le voit souvent. Hein, c'est-à-dire qu'il est fréquemment sur les couvertures. Encore le Dr. Doom, toujours le Dr. Doom. Bref, il y a même une époque où il était fréquemment présent. Et même, ils ont fait un troll une fois où dire le Dr. Doom n'est pas dans cette bande dessinée. Parce qu'il est réglementant. Donc, le 10 avril, le fameux Dr. Doom fait son apparition. Stan Lee et Kirby ont fait un personnage un petit peu qui est un peu comme la mort. Vous savez, ils ont pris le personnage encapé comme ça avec un masque qui est très très mortuaire.
Oui, on voit à peine
le
visage.
Bah, ils se sont inspirés de l'iconographie de la mort en fait pour en faire un personnage maléfique. Alors, bien sûr, il va affronter tout un tas de héros, les Avengers, un grand nombre de héros Marvel, Spider-Man, Daredevil, Nick Fury. Le statut du roi de ce vilain le place en dehors du droit international parce qu'il a un pays, on peut pas l'arrêter. Enfin bref, il a tous les avantages pour faire le mal comme il veut.
Comme certains qu'on connaît, non?
Peut-être bien, je vais pas en dire immédiatement les trucs. Le Docteur Doom est malgré tout un leader respecté et craint par son peuple, même si le reste du monde le considère comme un tyran. Pourtant, la nation de Latveria n'a jamais été aussi sûre et prospère. On peut peut-être voir chez les habitants un syndrome de Stockholm hein, quand même. Les pays voisins ont même peur de s'interposer, de peur de créer un incident diplomatique. Mais qui est le Docteur Doom? Qui est-il? Personnage iconique et au cœur de nombreuses histoires très riches et d'arcs légendaires des comics Marvel. L'adaptation au cinéma ne rend pas encore honneur à sa complexité. C'est un personnage qui est vraiment très complexe à l'heure d'aujourd'hui dans les comics tels que moi je les lis. On peut retrouver des origines de Victor Von Doom dans le Book of Doom de Brubaker et Raymond D. Il a carrément créé son origine. Enfin, c'est un livre qu'il a créé, mais il l'a remis un petit peu à jour. Victor est né dans un camp un clan Tzigan d'Europe centrale, les Zéphiro, installé dans ce pays fictif, dans l'Aftérie. Il n'a pas connu sa mère, une résistante au pouvoir du roi en place, Vladimir. Allez, au revoir. Qui terrorisait les Tziganes. Cynthia, la mère de Victor, est une sorcière. Elle cherche un avenir pour son fils et son peuple. Elle vient à passer un pacte avec Mephisto, une créature des enfers. Il augmente son pouvoir, bien sûr, mais malheureusement, dans sa déferlante de pouvoir, elle tue des innocents et elle est un petit peu bannie par son peuple et elle est malheureusement tuée dans les altercations qu'elle a avec le roi Vladimir. Les Tziganes sont à nouveau pourchassés et le roi en veut vraiment à ces Tziganes, hein, il les aime pas du tout. Il fait mander le père Werner de Victor von Fatalis pour soigner la reine en place qui est très malade. Bien sûr, Werner, qui est un grand soigneur, voit qu'il ne peut absolument rien faire pour sauver cette reine. Et là encore, le Vladimir, il l'accuse, tu n'as pas pu la sauver. Eh ben, je t'accuse de l'avoir tuée. Alors, il fuit dans la neige, en pleine nuit, avec son fils Victor. Donc imagine, il perd sa mère. Et bientôt là, il perd son père. Ah, il perd son père. Son père meurt. Donc il a envie d'une énorme vengeance. Hein. Il a envie de se venger de ce Vladimir. Il l'a un peu sévère. Le jeune homme grandit au sein de cette famille Tzigane et il découvre enfin que sa mère était une sorcière. Le gamin en plus est très talentueux, il a un génie hors du commun. Il est capable de créer des choses, même dans son petit pays là, du pays de l'Est, avec des brocs et des briques. C'est un peu comment dans la série télévisée, vous rappelez le fameux il crée des chewing-gums et des marshmallows. Merci Ingrid. Bref, donc. Il est repéré à un moment donné, parce que tu sais, il le fait en autodidacte. Hein. Il est sorcier autodidacte, il est ingénieur, inventeur autodidacte, mais il a droit au meilleur quand même. Et donc, il est repéré quand même à un moment donné, parce que lui aussi rentre en représailles vis-à-vis de ce roi un peu méchant quand même. Et il est repéré par une riche...
Une riche entrepreneuse.
Il va pouvoir faire ses études aux États-Unis,
un mécène.
Il va pouvoir avoir une bourse d'études pour aller s'expatrier et apprendre encore plus de choses pour revenir un jour. Victor donc se focalise sur son génie, empruntant donc les chemins de sa mère, en imaginant peut-être que la magie pourra lui permettre de sauver l'âme de sa mère et qu'en même temps la science pourra lui permettre de gagner en pouvoir et en notoriété. Donc, il va de ce fait. Je retrouve juste mon. J'ai vu mon rangé de passe. Oui, voilà. Tac. Ok. Alors, c'est un génie, un prodige, comme il y en a peu. Le seul qui peut rivaliser, c'est éventuellement Reed Richards, des 4 Fantastiques, qui lui aussi est un génie à sa manière, mais lui, c'est que la science. Il y a la science et rien d'autre.
Il y a pas la magie.
Victor, lui, il est un petit cran en dessous, mais parce qu'il est. Il manipule la magie, il ne sait pas trop faire de choses.
Ça, c'est moins rationnel en plus.
Voilà. Oui. Donc. Il va donc essayer, donc, à travers une expérience, de sauver sa mère. Mais ça se passe mal. Reed Richards lui dit « Attention, je pense que dans tes calculs, il y a un problème. » Bien sûr, l'autre dit « Il est jaloux, quoi. Il est jaloux de moi, il est jaloux de mon savoir. » Effectivement, l'accident arrive. Il est défiguré. Il est renvoyé par la faculté. Et il retourne en laftérie. Donc, bien sûr, défiguré, etc. Là encore, il est recherché par le roi, parce que, bon, bien sûr, c'est un Zigane, etc. Il s'enfuit au Tibet. Il apprend des arts supérieurs, l'art de la magie. Il se confectionne une armure. Et là, Victor von Doom, ou Victor von Fatalis en français, va disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus Victor von Fatalis, ce sera Docteur Doom. C'est-à-dire que l'homme qu'il était, avec ses sentiments, avec ses histoires d'amour qu'il a pu avoir quand il était jeune Xigan, etc., tout ça, il le met de côté. Il a tout perdu, il ne pense qu'à la vengeance, il ne pense qu'à se venger de toutes ces années de terribles fuites, etc. Voilà. Il va revenir dans le pays, et là, il se débarrasse du roi Vladimir, il prend la place, et là, le peuple l'encense, quoi. Il dit, ça y est, j'ai ma place, j'ai acquis ma place.
Tu supprimes un tyran, t'en récupères un autre.
Et quelque part, c'est un peu ça. Si c'est pas, finalement, bon, il ne voulait pas agir comme ça au début, mais malheureusement, vous allez voir que il passe un pacte avec le fameux diable que sa mère avait également pactisé, le fameux Mephisto. Il dit, ok, tu pourras sauver ta mère seulement si tu me bats. Et tu as le droit de le faire une fois par an, à la période du changement de l'année, à la période de Noël. Il n'est pas assez fort, il se fait à chaque fois ramasser. Et Billy, en échange, c'est qu'à chaque fois, ton peuple te haïra un peu plus.
Ah bah d'accord,
c'est cool. Vous voyez, donc c'est une espèce de... C'est un personnage un peu comme ça, tragique.
Il est méchant. À chaque fois qu'il rate le combat avec le diable, alors qu'il tente de sauver sa mère, il sera un peu plus haï, c'est
haï
ça.
Haï par son peuple. C'est-à-dire qu'il gagne même pas sur un level,
il gagne
sur
un autre.
C'est horrible. Donc... Voilà, il prend la tête de ce pays. Et l'histoire de Doom est une épopée magnifique, quelque part, qui nous plonge dans la dureté de l'Europe de l'Est, retraçant un parcours d'un humain au destin tragique, détestable par son égo surdimensionné, bien entendu, mais il est humain. Il est humain dans un monde, finalement, peuplé de super-héros. Ouais. Parce que lui, ce qui fait qu'il est super-héros, c'est son armure, c'est la manipulation de la magie, c'est sa volonté de faire, est incroyable, est en quête d'une supériorité sur tous les aspects, la science, la magie, pour devenir un dieu. Et en l'occurrence,
le
summum, c'est ça. Ah,
oui.
Et notamment dans Secret Wars, où là, il va carrément voler les pouvoirs d'un dieu. Et par contre, en même temps, sauver le multivers. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre des décisions assez tragiques, parce que le multivers est peuplé de tas de mondes. Il va devoir les sacrifier pour en sauver quelques-uns. Et ce qu'ils appellera Battle World. Et dans ce monde, il sera le dieu vivant, gérant les conflits, etc. Il a fait au mieux, en fait, mais il n'est pas un dieu. Il reste un homme avec les pouvoirs d'un dieu, donc avec toutes ses faiblesses, avec tout ça. Et
il a quoi comme faiblesse?
C'est-à-dire qu'il retombe toujours dans ses travers, c'est-à-dire qu'il veut toujours plus, il s'ennuie, enfin, il a toujours ce besoin de s'accaparer des choses, d'être le meilleur dans son domaine. Voilà, c'est vraiment le Victor von Fatalis est un personnage un peu comme ça. Il s'arrête jamais à ce qu'il a, en fait.
Ah, ça,
c'est ce qui le fait tomber à chaque fois.
D'accord.
Enfin, c'est ce qui le fait chuter en permanence. C'est-à-dire qu'il a quelque chose et il se passe toujours un truc qui fait qu'il
va toujours trop loin.
Il va toujours trop loin, en fait, dans le truc. Donc, ouais. Donc pour ça que c'est pour ça que je montre toutes les couvertures, mais c'est vrai qu'il a été et est encore un personnage majeur de l'univers Marvel. Au début, il prenait rouste sur rouste, soyons clairs. Mais au fur et à mesure des années, il a pris sa place dans l'univers Marvel en devenant un personnage incontournable, véritablement. Voilà, il a même été attaqué T'Challa au Wakanda pour récupérer le vibranium. Voilà, il a toujours 10 plans d'avance. Enfin, c'est un personnage qui est un intellectuel.
Mais c'est un bon ou un méchant ?
Eh ben, c'est un méchant, mais il est capable de s'associer, mais il a toujours des plans
machiavéliques.
C'est un peu comme un jour d'échecs. Il est toujours à 4, 5, 6 coups à l'avance.
Ah oui, il n'a pas que des projets sympathiques. Alors.
Pas toujours des projets sympathiques. On a l'impression qu'il est sympathique de temps en temps.
Oui,
parce que... Et il va se retourner, il va vous larguer comme une grosse chaussette et pour atteindre ses objectifs propres. Donc là, c'est un personnage intéressant.
Il a un bon fond.
C'est tragique parce qu'il a perdu sa mère, il a perdu son père, il a perdu son amour de jeunesse, il a dû fuir toute sa vie. Il a essayé de faire que son peuple aille mieux, mais s'y prend mal. Enfin, et avec ce pacte, bien sûr, qui le fait perdre chaque nouvel an, son peuple le haït en plus. Donc, c'est un personnage tragique. Mais moi, je l'adore.
Enfin, parce qu'il a une histoire.
Une histoire très complexe. Très, très complexe. Elle est assez belle, cette histoire.
Il n'est pas blanc ou noir, quoi. Effectivement, c'est agréable dans ce que tu dépeins.
Oui, c'est ça. Les gens ne sont pas toujours tout bons ou tout mauvais.
C'est ça.
Non, mais celui-là, il est victime du destin, puis en même temps de ses choix.
Voilà.
Ça donne envie de creuser, d'aller voir.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Bon, maintenant, je pense qu'on va passer à la deuxième étape européenne d'Olivier.
Merci, David.
On continue le voyage en Europe.
Allez, continuons. On va pas aller bien loin, on va aller.
C'est l'Angleterre.
C'est le Royaume-Uni.
Non. Ah non,
l'île de la Hollande.
L'Italie, l'Autriche, la Suisse.
Mais c'est l'île de l'Aftérie.
Au début, j'ai cru que c'était l'Angleterre.
Alors,
mais non.
Tu l'as dit. C'est vrai que ça ressemble un peu à l'Angleterre.
Oui, avec des mêmes
images.
Mais c'est l'Autriche. L'Autriche, on n'est pas très loin de l'Allemagne.
Österreich.
Et l'Autriche, alors, je ne sais pas quoi ça vous fait penser, vous, l'Autriche. Moi, ça me fait penser à Sissi, l'impératrice.
Ah oui,
c'était un peu. Les vaches de Vienne, oui.
Mozart
aussi.
Les Nouvel An.
Les croissants. La viennoiserie.
Le café
viennois. C'est bien ça. Et donc, par contre, alors, en bande dessinée, moi, j'ai pas trouvé grand-chose en tête. Alors, j'ai quand même cherché sur Internet, forcément, et je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Nicolas Mahler. Alors, Nicolas Mahler, lui, il est né en 69 à Vienne. Donc, il n'est pas très vieux, puisqu'il est à peu près mon âge. Et il réalise des illustrations et des bandes dessinées pour des journaux et magazines allemands, autrichiens, suisses, canadiens et américains. Il a publié son premier album aux éditions L'Association.
Ah oui,
en 99, avec une histoire qui s'appelle TNT, qui est parue aux collections Pattes de Mouche. Collections Pattes de Mouche sont des petits livrets comme ça de quelques pages, pas un petit format. Et donc, cette première histoire, TNT, en 99, s'intéressait au monde de la boxe. Et c'est un auteur qui a une bibliographie assez importante, puisque sa dernière parution était en mars 2024, avec un album qui s'appelle Complètement Kafka, toujours aux éditions de l'Association. Un album dans lequel donc, Nicolas Mahler s'attaque avec humour et irrévérence à la vie et à l'œuvre de Kafka. Alors, je cite un extrait de sa bio, parce que je n'ai pas été voir tout complètement dedans. Mais voilà, le style et les décors de Nicolas Mahler sont minimalistes. Ses personnages à long nez sont raides et son humour terriblement efficace. Il met en lumière des situations ubuesques, des personnages de losers et il explore tous les genres autobiographiques, adaptations, strip, western, sport, comique, etc. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, sa bibliographie est très, très riche. Et comme moi, tout ce qui se passe au niveau des éditions de l'Association... Voilà, je vous montre le Complètement Kafka. Tout ce qui se passe dans les... on est vraiment dans les éditions de l'Association. Et on mettra sur la page.
On mettra sur Facebook.
Mais ça donne envie d'aller creuser un petit peu. C'est toujours des choses plaisantes. Et donc, voilà, Nicolas Mahler. Donc, moi, je vais regarder un petit peu plus précisément son œuvre, son travail. Et je pense qu'avec Nicolas Mahler, j'aurai beaucoup de... bonheur.
Oh, c'est beau.
Je cherchais en Autriche, il y avait aussi.
J'arrive pas
à retrouver le nom de la compagne de William Ogel.
Ah oui. Eh bien, on va chercher.
Oh, il faut chercher. Mais du coup, c'est une grande autrice de BD qui est venue à Ville et BD, qui a fait toute une année de travail au Canada.
Oui.
J'ai que son nom en tête, mais il ne revient pas. Peut-être
qu'il va retrouver.
Il reviendra plus tard.
Et puis moi, j'aime bien les BD de loser.
Ah oui,
il y avait dans Pilote dans le temps, il y avait un héros, il avait une page par numéro. Il mourait à la fin de chaque épisode. À chaque fois, il mourait. C'était à mourir de rire, du coup. Il mourait à chaque fois.
Bon, bah, en attendant sur ces joyeusetés, nous allons nous mettre un petit peu de musique. Et, là, on va être en lien avec le thème, c'est Europe.
Son des bulles sur RCN.
Ouf, mais il faut qu'on reprenne notre souffle après ça. Hein. Parce que c'est nous qui avons chanté, hein, quand
c'est
même.
Ça. Ah oui, oui. Ouais. Avec une voix très haute.
Et fait la musique.
Et fait la musique et tout, et tout, et tout.
On va parler
bien. Bien, alors revenons à nos moutons. Peut-être ou pas, Françoise. Tu nous as trouvé quoi chez Monsieur de La Fontaine ?
Ah ben, chez Monsieur de La Fontaine. Ben, moi, j'ai cherché critique des hommes politiques en BD. C'était un petit peu mathématique. Et je suis tombée. Alors, tout à l'heure, on trouvait que Charles, il datait un peu avec ses BD du siècle dernier. Moi, je vais carrément monter au XVIIe siècle avec les Fables de La Fontaine. Fables de La Fontaine qui ont été remises en album, mais par Sébastien. Alors, je me souviens jamais si c'est un Sébastien Lumineau. un espèce de fou furieux qui fait plein de trucs pas possibles. Moi, je connaissais pas, mais je connais pas grand chose en BD. Et voilà, qui avait comme pseudo Imius au départ, et puis finalement qui publiait qui publiait chez les Requins Marteaux, maison d'édition de BD alternative, position indépendante underground, qui fait des productions de films, festivals et expos. Donc déjà au départ, la maison d'édition, ça me plaisait bien. En plus, ils ont une collection, une collection BDQ dans laquelle Lumino a écrit.
Quoi?
Donc c'est un petit peu, oui, non, mais je le dirai plus jamais, je vous promets. Donc un peu subversif, un petit peu transgressif, voilà, c'est quand même une maison d'édition qui a eu 30 ans en 2021. Moi je connaissais son nom, mais je savais pas trop ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est à creuser, c'est une activité marginale pour moi et inconnue, voilà. Et donc les éditions Requin Marteau, qui ont quand même été primées à Angoulême pour le prix de l'audace. Donc ça veut dire quand même qu'il transgresse un petit peu. Et alors le camarade de Lumino, là il a quitté son pseudo en 2005 pour devenir Sébastien Lumino, il a quitté Imus, avec un recueil plus qu'une BD qui s'appelle Une Vingtaine, qui est un pot pourri de toutes ses productions. Alors moi, ça m'a bien fait plaisir qu'ils reprennent La Fontaine, parce que La Fontaine, on l'étudie à l'école, la cigale et la fourmi, si jamais tu travailles pas, ben tu mangeras pas, danser maintenant, enfin c'est toujours un peu pompeux, par les fables choisies, alors que le bon La Fontaine, il a critiqué le pouvoir, il était en danger, il a écrit des fables licencieuses, érotiques, voilà, c'est pas trop connu, mais en attendant, il a fait des trucs pas possibles. Et dans cette bande dessinée, justement, c'est une petite bande dessinée, et la force de Lumino, c'est d'avoir repris des fables de La Fontaine, les plus politiques, quoi, je vais en dire quelques mots sur quelques-unes, mais de les mettre en personnage humain. Donc on n'était plus cette reprise d'Ésope qu'on lui a dit, les grenouilles, le héron, le renard et tout ça. Mais il a tout mis en humain. Donc les humains, ils sont fabuleux parce que, comme on est dans du pouvoir politique, c'est de la grosse caricature. C'est tout des quadras, quinquas, avec des cravates, des lunettes à écailles. Ou alors... Voilà, je suis un peu enrhumé.
Le rhume.
Oui, j'ai pas le rhume, je vais mourir à la fin de ma chronique. Adieu, c'est mon chant du cygne. Donc voilà, il garde le texte intégral pendant toute sa BD, mais il met justement des humains. Ça donne un air contemporain et actuel, complètement différent des fables de La Fontaine que ça disait. Tel que c'était, c'est quand même du XVIIe siècle. Alors il met effectivement en scène les plus politiques. La Fontaine, je disais, c'est donc pas ce moralisateur qu'on avait. Il y en a un autre qui avait bien réussi à refaire les fables de La Fontaine, c'était Gottlieb quand même, dans ses dingos d'Ossé, ou je sais plus lequel, où il faisait avec des dessins complètement absurdes les fables de La Fontaine, toujours dans le texte d'origine. Hein, voilà, ça c'est... Voilà. Et grâce à cet ouvrage, on retrouve l'aspect cynique et violent de notre monde, au travers des fables de La Fontaine du XVIIe siècle, j'arrête pas de le dire. Alors la préface, elle dit un monde dont les principes riment avec l'arbitraire et la vanité d'une monarchie éteinte, un monde dont le progrès technologique peine à cacher une brutalité ancienne et toujours ardente. En clair, rien n'a changé, ma bonne dame. C'est exactement ce que ça veut dire, ce qui était et critiqué Louis XV quand même, La Fontaine. Alors les fables ici, c'est les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles qui demandent un roi, elles veulent le changer et tout, puis finalement elles ont un roi tel qu'elles le demandent, sauf que il fait ce qu'elles demandent, donc il voulait un roi un peu tyrannique et autoritaire, le problème c'est qu'elles se font manger elles-mêmes, elles disent les gars lui disent écoute, t'as voulu ça, t'auras ça.
Ça fait penser à quelque chose, ça.
Oui, c'est bizarre.
Tu m'étonnes, c'est pas ça. Moi j'ai un copain effectivement qui trouvait que c'était bien de visser les choses. Son gamin a été un petit peu, il avait 10 ans, il a joué sur un chantier, c'est le commissariat qui l'a ramené. Il a dit non, pas moi. Je lui dis si, toi ton gosse c'est comme les autres. Hein. Donc attention à ce qu'on fait. Voilà.
À ce qu'on demande.
T'as de la chance de pas être en lafterie.
Mais ça, c'est ça. Après, on a donc les animaux malades de la peste, effectivement, où tous les. Ça, et là, on est sur un entre-gens, sur un entre-soi. Tous ces gros hommes, c'est des caricatures, ça n'existe pas. On est dans une dystopie, là. On est dans un monde parallèle, ces hommes politiques qui font des trucs pas possibles, puis qui s'excusent les uns les autres, puis qui trouvent toujours un pauvre bouc émissaire. C'est vraiment la notion de bouc émissaire qu'il a mis en route, qu'il a mis en place. Et dans les dessins, dans ces dessins, on le voit bien, quoi. C'est un pauvre baudet qui débarque, et puis qui se fait accuser, on le met à mort, parce que c'est de sa faute si le monde va mal, que ce soit la couleuvre et tout. Alors les puissants qui se pardonnent leurs crimes entre eux, ça c'est...
Oui,
voilà,
ça,
parce
ça
qu'on a les avocats, enfin voilà, je pensais à Levallois-Perret. Je sais pas pourquoi.
Ouais, alors, par exemple,
ça m'a un peu échappé, j'ai des exemples, voilà. C'est pareil, dans les phrases telles que la raison du plus fort, Ah bah alors là, j'ai voulu jouer l'auto le 49-3, je vais voir si jamais ça marche, si ça m'apporte quelque chose, enfin voilà, ça fait écho. Bref, c'est d'une actualité brûlante, l'homme et la couleuvre, c'est pareil, responsable de tout, c'est ainsi chez les grands, la raison les offense, ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Et la phrase là, je la trouve délicieuse, et c'est du La Fontaine. Donc le plus touchant, la dernière histoire qui a été mise, mais vraiment elle est mise en musique, enfin, c'est Le Renard et les Raisins, ça m'a fait penser à la chanson de Souchon, Rêver c'est déjà ça. Où on voit un grand noir, effectivement, qui se promène avec son sac en plastique vide et qui dit « Rêver, c'est déjà ça ». Et là, c'est ça. C'est un noir qui est dans un supermarché, il voit des raisins, il y a le vigile à côté, et il dit « Ben voilà, les raisins sont trop verts, ce sera pas pour moi ». Et on voit bien qu'il y a la misère qui fait qu'il y a de l'envie et qu'il y a de la raison pour s'en passer et que c'est, voilà. Et il a réussi à transformer justement ces fables de La Fontaine qui nous ont fait suer peut-être quand, qui nous ont fait suer quand on était petit, à les transformer, à les mettre en page, à en faire de l'émotion, à en faire quelque chose de, voilà. La BD en elle-même, c'est des traits qui sont un peu grossiers, ça m'a fait penser des fois. Certains dont c'est tardi, c'est assez noir, les traits sont masqués, les personnages, donc c'est des gros quadras, lunettes à cravate, voilà, il n'y a pas de femmes. Hein. De toute façon, les femmes, on est toujours gentilles, nous. Ouais. C'est bien.
Ça, c'est vrai. Ça.
Voilà.
Presque.
C'est quoi ce bruit bizarre, là, voilà. Et donc, voilà, le passage de ces figures animales au dessin humain. Alors, les situations, c'est l'exploitation, l'immigration, l'injustice, la culpabilisation des faibles, l'arrogance des riches. Ça donne, ou plutôt, ça redonne à La Fontaine un côté moraliste et pas moralisateur, c'est pas pareil.
C'est
pas d'Europe, ça. C'est de la politique.
Non, non, c'est moi, c'est tous des sujets d'Europe.
Ah, mais j'ai dit que c'est pas l'Europe. Ah bon ? Je serai dans l'actualité, je ne le dis pas. Donc voilà. Et qui peut que nous amener à réfléchir sur ce qu'on veut, surtout en cette période d'élection, on va dire. Quel choix faisons-nous et pourquoi ? Alors, surtout, loin de moi l'idée d'un tous pourri, c'est pas du tout ça, il y a des gens bien. Ce moment-là, je vais citer Shakespeare, hein, quitte à se la péter, autant se la péter à fond. Il y a quelque chose de pourri dans mon royaume, disait, c'est dans Richard III, je crois. Donc, en conclusion, je dirais, relisons La Fontaine, surtout mise en page par Sébastien Lune. J'arrive pas à me souvenir de son nom. J'ai qu'un neurone lumino. Et puis en plus, le petit livre, il est sympathique. Il est rouge, carré.
Un petit format.
Il y a une tête de cochon dessus, en dessin. On dirait des dessins de Canardo, de l'inspecteur Canardo. Moi, j'aime bien.
C'est un joli petit livre, un petit format
qui parle à tout le monde, à tout âge. On peut les avoir, effectivement. Réfléchissons et votons sur tout ce qu'on veut. Après tout, voter ce qu'on veut, votons. Sinon, l'autre le ferait à notre place. Parce que, comme disait le canard enchaîné, qui est aussi un truc subversif, moitié BD, moitié écrit, la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Paf.
Ok, voilà. Merci allons-y. Françoise.
Donc, La Fontaine, mon ami, c'est super. Par Lumino.
Passe à la
tête. Et celui-là, il est à toi ?
Oui.
Ah.
Je vois Olivier qui est en train de lorgner sur le livre. On va passer à ta troisième étape, Olivier. Tu nous emmènes où cette fois-ci ?
Où est-ce qu'on prend le train ? De toute façon, c'est circonscrit à l'Europe. De toute façon,
oui,
on va jamais très loin.
L'Europe à 27, ça fait quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là,
on va avoir des endroits sympathiques là, non ?
Ouais, là, on va toujours pas aller très loin. On peut y aller même en voiture presque, puisqu'on va aller.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
J'ai envie de dire la Pologne.
L'Italie.
Non.
La Roumanie.
Je crois que ça s'appelle la Brabançonne.
Belgique une fois ? Parce que quand même, la Belgique, c'est quand même le pays de la PD.
Attention, tu vas te faire des ennemis.
L'accent est un peu forcé.
Ah non, tu trouves ?
Eh bien, effectivement. Elle était enrhumée la semaine dernière. Oui,
effectivement.
Parce que je suis passé en Belgique la semaine dernière.
Ah ben voilà, il s'agit de la Belgique. Et en Belgique, voilà.
Bisous de nos amis les Belges.
Bisous, surtout que des frites,
merci.
Et oui, parce que la BD, comme les frites, est à la Belgique, ce que le foot est au Brésil, ce que le cinéma est à Hollywood et ce que la pétanque est à Marseille, c'est-à-dire un incontournable. Et c'est pas pour rien que le principal courant artistique de ce secteur, la bande dessinée, s'appelle le franco-belge. Voilà, et c'est de ce pays que sont sortis les principaux tauliers de la bande dessinée. Vous voulez des noms ?
Ah bah, il y en a plein.
Ah bon ?
Hergé,
Franquin, Jacobs, Bob Demour, Jean-Michel Charlier, Maurice Tillieux, Victor Obinon, JDM, JG, Raoul Covin, Didier Comès, j'en ai pris que 11, vous verrez pourquoi, etc. etc. Mais
c'est une grande école.
Voilà, franchement, les racines presque sont là.
Charles aurait été content de t'écouter.
Ah oui, on m'a dit cette chronique à Charles.
Charles, c'est pour toi. Et la BD belge est donc un patrimoine à honorer. bien sûr, avec respect. Mais c'est aussi un avenir à découvrir. Et oui, et si dans la nouvelle, enfin, pardon, si dans la liste précédemment citée de 11 personnes, on pourrait créer une équipe de foot masculine, bien sûr, eh bien, la nouvelle génération fait la part belle aux autrices. Ah. Deux exemples.
Enfin.
À commencer par Aveline Stockart. C'est une toute jeune dessinatrice. En 2021, toujours dans la bande dessinée jeunesse, elle illustre la série Les L aux éditions Le Lombard avec Kit Toussaint au scénario. Alors c'est une série de trois tomes.
Comment ça s'écrit L ?
Les L. Ah oui, pardon, les L. E-2-L-E-S. D'accord. Alors, je ne sais pas si on fait une liaison aussi, les L.
Mais tu bon, peux, non, c'est mais les L-E-S ou je sais pas
quoi. Oui, c'est les L. En fait, l'idée, l'histoire, c'est que c'est une jeune fille, une collégienne, qui, ses émotions se personnifient. Elle change d'apparence quand elle est en colère. Elle change d'apparence quand elle est triste, quand elle est drôle, etc. Elle a cinq personnages différents. Et donc, c'est une histoire qui a plu beaucoup et qui a énormément et qui s'est vendue jusqu'à maintenant à 600 000 exemplaires.
Ah ouais, quand même, c'est bien, c'est très
quand
bien.
Même. Au niveau de la littérature jeunesse, c'est un grand succès. On en avait parlé d'ailleurs avec Pauline de la librairie Plus Belle les Bulles.
Ça dit quelque chose, les Bulles. Oui.
Donc voilà, alors ça, c'est Aveline Stockart, donc dans la littérature jeunesse. C'est un peu la génération Y, hein, Aveline Stockart. On maîtrise bien la technologie, on maîtrise bien les réseaux de communication, on a un compte Instagram, plein de followers, on fait des dessins et c'est un petit peu... Ben voilà, on est un petit peu autonome, on fait les dessins sur la tablette, etc. C'est un petit peu ça maintenant, les dessinateurs, les jeunes dessinateurs, on va dire, sont un petit peu dans cette mouvance-là. Quoi.
Ils utilisent tous les moyens à leur service, en fait, finalement.
Bien sûr, les moyens, puis c'est normal.
Et puis pour pouvoir percer, c'est un des bons moyens. Quoi.
C'est ça, les Belges, ils avaient arrêté le marteau et le burin dans la pierre, hein, à un moment, ils ont utilisé la primerie, il me semble.
Assez longtemps après, quand même, ils ont gardé beaucoup le burin et la pierre.
Écrivez dans la cire.
Bisous à nos amis belges, bien sûr.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Et le deuxième exemple, Alix. Attention, le deuxième exemple.
Ah oui, parce que. Jacques Martin.
Restez focus un peu. Hein. Yes. Pas Jacques Martin, mais Alix Garin. Alix Garin. Elle est née en 97 à Namur. Elle est diplômée de l'École supérieure des arts de Saint-Luc. À Liège.
Alors, Saint-Luc, c'est une grande école.
C'est quand même une grande école. On en avait parlé aussi.
Et effectivement, ah bah alors, un jeune stagiaire de Saint-Luc.
De Saint-Luc.
C'était Lucas. Petit coucou à Lucas, qui était de Saint-Luc aussi.
Tout à fait. Voilà. Et je m'en rappelle bien parce qu'à l'époque, on avait parlé de Saint-Luc. Et Saint-Luc, Giraud est sorti de Saint-Luc. Bon, petit coucou à Giraud. Mais...
Oui, il y en a beaucoup qui sont sortis de Saint-Luc.
On va dire un coucou global.
Global à tous les élèves de Saint-Luc. Et donc, cette jeune fille, Alix Garin, qui a fait l'école supérieure de Saint-Luc, en 2017, elle est lauréate du prix Jeune Talent du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. En 2021, sa première publication aux éditions Le Lombard s'intitule « Ne m'oublie pas ». C'est l'histoire de Marie-Louise qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et face à son désespoir, Clémence, sa petite fille, prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête d'une hypothétique maison d'enfance de la mamie. Donc c'est un album qui a eu un énorme succès aussi et qui a reçu beaucoup, beaucoup de prix. C'est le premier album de l'autrice, c'est pour dire le talent de cette jeune fille.
Elle l'emmenait pas dans son école ou un truc comme ça ? Ça me dit quelque chose, ça ?
Ouais.
C'est un très bel album.
Ouais, et effectivement, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'intimité aussi. Et en termes d'intimité, en 2024, en septembre 2024 plus précisément, Alix Garin va sortir, toujours chez Le Lombard, un album qui aura pour nom Impénétrable. Là aussi, c'est un récit qui va briser un tabou de la sexualité féminine. Du haut de ses 24 ans, cette chère Alix a bien compris le pouvoir de la bande dessinée comme média privilégié pour créer de l'émotion et de l'ouverture sur des questions et des problèmes pas toujours faciles à aborder. Alors, à suivre également.
Super.
Et bisous à nos amis les Belges.
Merci. Eh ben merci, merci les Belges. Alors, c'est bien gentil ça, Olivier. Tu nous fais voyager en Europe.
Oui.
Pour le moment, c'est l'Europe quand même un peu du Nord où il ne fait pas très beau, pas trop. Moi, je m'attendais à aller plutôt en Espagne, en Italie.
Si tu me donnes la parole une quatrième fois, on y va.
Alors, en attendant, on va aller chercher le soleil, puisque c'est là. Non. Moi, j'en ai marre.
On y va tous.
Je veux du soleil.
Je crois qu'on va te suivre.
On te suit.
Je veux du soleil.
Je suis resté qu'un enfant dans les grands.
Le son des bulles sur RCN.
Et nous allons donc enchaîner avec ma coéquipière Anne-Marie qui va nous parler de la revue dessinée avec une petite voix surprise en prime.
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai choisi la revue dessinée parce que le thème était un peu compliqué quand même. Et puis moi, la revue dessinée, j'adore parce que c'est une revue qui paraît tous les 3 mois et qui décrypte l'actualité en bande dessinée en 200 pages sans publicité. Ah. Alors, ils le déclarent eux-mêmes, c'est donc fait avec des journalistes professionnels. La revue dessinée délivre une information critique, rigoureuse et engagée, avec un regard singulier de la bande dessinée. Alors c'est toujours très très intéressant. C'est vrai que ces articles sont très approfondis. À chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. Ils s'associent souvent à Mediapart. D'ailleurs, la revue dessinée publie régulièrement des éditions spéciales regroupant les articles menés conjointement avec Mediapart. Et il existe aussi des albums d'enquêtes spéciales, comme sur MeToo ou sur la crise écologique, par exemple. Les sujets sont très, très éclectiques. Il y a de l'humour, du drame, de l'actualité, de la culture, de l'histoire contemporaine. Bref, de quoi réfléchir. Alors moi, là, j'ai pris un exemple relié à notre thème du jour, enfin, à peu près. Donc, l'article, c'est « Finances sauvages », publié dans le numéro 35, qui est sorti au printemps 2022. Donc, c'est pas très récent. Mais voilà, les auteurs ont réussi, dans un condensé de 30 pages, dessiné dans des tons ocre et vert kaki, d'un dessin plutôt réaliste, à nous présenter un sujet complexe et très loin de nos occupations quotidiennes, mais qui ont des incidences sur nos jugements importants. Alors, le sujet portait sur le financement du Brexit. Voilà le lien avec l'Europe. Le financement du Brexit par les milliardaires à la recherche d'un libéralisme extrême. Alors, je peux affirmer sans ombrage que la CEE est principalement un amoncellement de règles. On s'en plaint souvent, très souvent contraignante, mais surtout protectrice face à un capitalisme débridé. Ces législations sont souvent tatillonnes, mais nous permettent de nous protéger de plusieurs centaines de millions, permettent de protéger plusieurs centaines de millions d'Européens face à quelques financiers sans scrupules. Cet article nous montre comment, avec d'énormes chèques, des personnes très 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 riches réussissent à influencer un référendum, celui du Brexit, alors que bon nombre d'industriels et de grands patrons anglais s'étaient publiquement positionnés contre le Brexit. Donc vraiment, la finance là, a eu un poids énorme. Et les spéculateurs, ont besoin d'avoir les mains libres pour jouer sur les places boursières. Et certains de ces financiers ont affirmé leur côté prédateur et spéculent sur les risques politiques et environnementaux. Donc tout ça est bien expliqué. Alors un petit mot sur les auteurs. Donc on a Marlène Banquet, sociologue chargée de recherche au CNRS, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Théo Bourgeron, qui est chercheur en sociologie à l'Université d'Édimbourg. Et au dessin, on retrouve Fabien Roche, dessinateur de BD, illustrateur, graphiste. Il a publié aussi La météorite des Hodges en 2021 chez Delcourt. Alors, il s'explique sur la forme qu'il a choisie à la fin de l'article dans un making-of que notre petite voix va nous lire.
La métaphore. La métaphore sauvage m'a semblé intéressante à exploiter, car elle est décrite par James Goldsmith lui-même. Ce qui serait passé autrement comme une caricature devient une illustration de la vision du monde, d'une droite conservatrice ultralibérale. Mais on voit bien que la jungle, dans laquelle ils évoluent, est faite de moulures d'or et de châteaux Lafitte. Ce mélange de monde sauvage et d'aristocratie m'a offert un terrain de jeu graphique et symbolique, réjouissant, qui permet de créer une narration plus fluide et, je l'espère, d'ajouter une couche de sens et d'ironie à un texte déjà riche.
Merci Ingrid. Alors voilà. Ingrid. Donc je vous invite donc à découvrir cette revue. Alors là, j'en ai plusieurs là, qui peut aussi se trouver dans les médiathèques ou chez votre marchand de journaux ou en librairie. Et vous pouvez aller aussi sur leur site internet pour découvrir un peu comment c'est fait.
Ça donc, vulgarise un petit peu. C'est intéressant, un peu comme Jean Covici quand il fait son livre sur la fin du monde. Il y a ce côté un spécialiste, un professionnel ou un professeur dans un domaine précis qui est accompagné d'un dessinateur. Voilà. Et ça donne toujours trouve des choses assez pertinentes et vachement intéressantes en termes
oui,
de.
Oui, et puis je trouve que ça éclaire bien, quoi, parce ouais. que si on n'est pas pointu dans le sujet, eh ben, c'est pas très long à lire, c'est pas compliqué et on arrive à aborder des thèmes.
Parce que c'est documenté, c'est chiffré, ah bah c'est pas uniquement une profession de foi en disant oui, il y en a qui. C'est vraiment, voilà, c'est
une sorte de Mediapart,
c'est ça.
Mediapart, ils font pas juste.
Ah ben tu me.
Très chouette. J'en ai quelques-uns à la maison.
Elle est bien cette émission parce qu'on s'échange les bouquins à la fin, faut qu'on vous le dise.
C'est vrai qu'il faudrait pas prendre ce magazine-là pour un magazine enfantin. Ah comme
ben,
des
voilà,
fois,
oui.
on pourrait le prendre en le voyant en rayon. Oui. Non, c'est vraiment des enquêtes très, très fouillées, très documentées.
Voilà. Très chouette.
Et très sérieuses.
Ah oui, oui.
Voilà, voilà.
Cool. Moi, je ne connaissais pas du tout.
On va revenir sur du plus léger, Olivier. Tu nous fais ta quatrième partie.
Bon, allez.
Allez, go.
Vite fait, un petit
le
voyage.
Le YouTube du casque. Tu vois comment il en
fait du... Vous voulez du soleil?
Oui. Ah, oui.
Ben, allons-y.
Espagne. Facile.
Espagne.
Côté des Pyrénées.
Alors l'Espagne. Oh là.
Ah oui. Oh là.
Oh là, qu'est-ce que t'as?
Eh oui, vous voulez un peu de soleil, un peu de chaleur. Oui, on en a envie. Hein.
Ouais.
Donc l'Espagne est à l'est, dans l'Espagne. Où il y en a plein aussi des autres.
Il y en a plein. Il y a des ponts.
Par contre, bon, voilà, il fallait que j'en choisisse un et j'ai choisi un qu'on aime bien ici, et surtout toi, Françoise.
Ah.
Ouais, même ah. les autres, puisqu'il s'agit de Jordi Lafèbre.
Ah oui, oui.
Jordi
ah,
Lafèbre, oui. né à Barcelone en 1979, qui étudie les beaux-arts et la bande dessinée à l'université. En 2001, il fait ses premières armes dans l'illustration. Il entame une série de collaborations dans différents magazines espagnols, notamment le magazine jeunesse Mister K, dans lequel il publie El Mundo de Judy, le monde de Judy, aux côtés du scénariste Tony Font. Et c'est fin des années 2000 qu'il rencontre Zidrou. Zidrou, un scénariste assez connu et qui produit beaucoup de choses. Et ils décident de travailler ensemble. Alors c'est le début d'une collaboration qui va être fructueuse, puisqu'ils vont réaliser en 2010 un album qui s'appelle Lydie. En 2014, La Mondaine. La Mondaine, c'est le quotidien de la Brigade des Mœurs pendant les années 30.
Ouais.
Là aussi, c'est une histoire assez intense.
Eh bien, celle-là, je l'ai à la maison.
Ouais, 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 cool. en deux volumes, je crois. En 2015, de 2015 à 2021, il y aura Les Beaux Étés. Les Beaux Étés dont on a parlé récemment. Et c'est les vacances de la famille Faldero sur les routes du sud au bord de la Quatrelle Rouge Estérelle.
Ah, tu nous avais fait un petit
on avait fait. Ouais, ouais. Et surtout, on aime bien par rapport à l'album magnifique qui s'appelle Malgré tout.
Ouais.
N'est-ce pas, Françoise?
Ah, c'était mon coup de cœur.
Le coup de cœur. Et donc, on vous conseille tous les albums de Jordi Lafèbre.
Ah, oui. Ok. Ben, merci. Donc, on arrive à la fin. Je crois que David a une annonce à faire avant.
Très rapide, évidemment. Donc, je rappelle le festival de Toul le 15 et 16 juin pour les gens qui veulent visiter un petit peu la région. Puis, il y a un super festival des fêtes médiévales, etc.
Et puis, il y a une bibliothèque.
Il y a habité de Toul. Ça se passera dans le cloître à Toul, la cathédrale, un super lieu, super sympa. Ça sera à l'ombre s'il y a du soleil. Le petit café BD court-circuit à l'Axou le vendredi 7 juin.
7 juin.
7 juin, hein, pour ceux qui veulent venir faire des petits jeux, etc. etc. Et toujours en cours, j'en profite pour faire un peu la promo de la sauce, le financement Ulule de Yingibao de Morad Dermel en cours actuellement sur Ulule. On est à 75%.
Et si le financement est atteint, David fait le tour de la Plastane déguisé en panda.
Voilà. On verra. J'essaierai de lui mettre un costume, mais on verra. Merci.
Voilà,
merci. Je ne le savais pas moi-même, Olivier.
Je te suivrai.
En yin-yin, du coup.
Ouais. On est arrivé au terme. Merci à tous. Merci à
Jean-Luc,
à la technique.
À bientôt.
Et puis, donc, vous nous retrouvez sur
Facebook
pour des compléments.
Voilà, tout à fait.
Sur RCN86.7, toujours, n'oublions pas.
Voilà.
Oui.
Et à bientôt les amis.
À bientôt. La prochaine fois c'est les Jeux Olympiques.
Ah,
oui.
À fond.
À fond. On va s'entraîner
à fond, ouais. Marathon.
L'essentiel c'est de participer, hein, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai.
C'est ça le truc des Jeux Olympiques.
Bonne phrase de fin.